Ça bouillonne.
À soupetard.
Alors, l'exercice, c'est ce qu'on appelle un pense-écoute. Donc, l'idée, c'est justement pendant 1 minute 30, une personne va pouvoir répondre à la question et l'autre va simplement l'écouter. On va vous demander donc chacun votre tour de prendre ce rôle-là et de répondre à la question qu'est-ce qui vous motive à participer à cette opération et à réduire vos déchets. Ce que je vais dire. Et c'est parti.
Ce que j'ai dit.
Je participe à cet atelier parce que je pense que c'est très important, les déchets, que malheureusement, dans notre vie de tous les jours, que ce soit professionnelle ou personnelle, on fait beaucoup, beaucoup de déchets. Et que c'est important pour la planète et pour la vie de tous les jours. Simplifier en fait.
L'association Zero Waste Toulouse, c'est une association locale et indépendante qui milite pour la réduction des déchets et des gaspillages. Donc nos activités, c'est de sensibiliser tous les publics, donc les citoyens, les citoyennes, les pouvoirs publics avec les collectivités, les entreprises, les associations et toute autre personne volontaire à la sensibilisation sur la réduction des déchets et des gaspillages. Donc on essaie de décrypter un petit peu les informations pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est un déchet et comment on évite de produire des déchets et pourquoi il faut éviter de produire des déchets. Et on a aussi d'autres activités de plaidoyer, par exemple, on travaille avec les pouvoirs publics pour améliorer les politiques publiques en matière de prévention et de gestion des déchets, pour réduire la quantité de déchets, mais aussi réduire la toxicité des produits qui sont utilisés pour que la pollution soit amoindrie par la suite, quel que soit le mode de traitement du déchet.
Voilà, je ne sais pas, ça a passé le temps.
Donc là, vous vous êtes rendu compte si vous êtes une pipelette ou pas, si 1 minute 30 ça paraît long ou pas. Et là, du coup, ça sera à la deuxième personne de répondre à cette question de du coup, votre motivation sur la réduction des déchets.
Je m'appelle Lila Sultan, je suis coordinatrice de projet et animatrice dans la sensibilisation à la réduction des déchets et des gaspillages pour l'association qui s'appelle Zero Waste Toulouse. Et je suis avec Célia.
Je suis en service civique dans l'association Zero Waste Toulouse depuis à peu près un mois. J'ai voulu chercher à faire un service civique dans l'environnement parce que c'est un domaine qui m'a toujours intéressée. Je voulais me rendre utile surtout et avoir un certain impact dans ce domaine-là, pouvoir changer mes habitudes à moi aussi. Et c'est vrai que les déchets, bah, ça impacte beaucoup justement l'environnement et ça touche à tout. C'est quelque chose qui a du sens pour moi.
C'est vrai que quand tu m'as dit que vous étiez assez sensibilisés, notamment les enfants, à cette question, c'est vrai que nous, on essaie aussi d'être sensibilisés le plus possible. Et on n'a pas encore d'enfants, mais il est en route. Donc ça peut être intéressant de lui transmettre après tout ça pour le futur. On verra si ça fonctionne. Le problème des émissions en général de l'espèce humaine sont quand même un problème assez important à gérer. Donc si on peut y mettre notre petite pierre à l'édifice, ça serait pas mal. J'ai pas tenu 1 minute 30.
Il y a une définition du déchet. Le déchet, c'est tout objet ou substance qui est abandonné ou dont le propriétaire a la volonté d'abandonner l'objet. En gros, c'est un objet dont on se sert plus et duquel on a l'intention de se séparer. Ça, c'est un déchet. Il faut savoir que les déchets, avant d'être des déchets, donc, c'est des objets et que les objets, ils ont nécessité des ressources pour être fabriqués et que la manière qu'on a de consommer les objets va influencer la production des déchets et donc les pollutions et les impacts qui sont liés à cette production de déchets.
Si je sors les jours où il est sorti de poubelle, il y a des poubelles en train de prendre. C'est pas grave.
C'est passé, je reste dans le
cercle. Pour ceux qui ont fini, je vous propose de revenir dans le cercle. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir préciser, enfin raconter en peut-être une phrase assez synthétique, le prénom de la personne avec qui vous avez discuté et ce qu'elle vous a dit sur sa motivation.
On essaye systématiquement de proposer des jeux, en fait, des animations ludiques où on va faire participer les gens pour se poser des questions et se rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, les gens ont déjà les réponses. sur qu'est-ce que c'est qu'un déchet, comment on peut l'éviter. On a par exemple une animation qui s'appelle l'autopsie de poubelle. Donc on a une poubelle dans laquelle il y a des déchets. Et le but du jeu, c'est que les participants et les participantes prennent un déchet et le classent dans une caisse selon s'il est évitable ou non évitable. Donc je vous prends un exemple basique. Il y a une bouteille d'eau en plastique dans la poubelle. Ils doivent prendre la bouteille en plastique et dire si on peut éviter d'avoir ce déchet. Donc la réponse, selon vous, c'est est-ce qu'on peut éviter d'avoir une bouteille en plastique ?
Oui.
Et comment ?
C'est à la poubelle jaune.
Alors ça, c'est une réflexion intéressante. Le fait de mettre un déchet dans la poubelle jaune, ça ne veut pas dire qu'on a évité le déchet, ça veut juste dire qu'on lui a trouvé une solution de traitement qui est un peu moins pire que de le jeter dans la nature ou de le brûler dans un incinérateur. Par contre, j'ai entendu la réponse.
Une goutte ou un air qui a dit.
Exactement. La solution, c'est la gourde. Si on a une gourde qu'on peut réutiliser, on n'a plus besoin d'avoir une bouteille en plastique jetable. Et donc là, dans l'autopsie de poubelle, on a plein d'autres déchets et on se pose systématiquement la même question de savoir est-ce qu'il y a un objet qui permet de remplacer ce déchet qu'on va pouvoir réutiliser pour éviter justement d'avoir le déchet à la fin.
Le recyclage, c'est pas une solution. Pourquoi ?
Il y a beaucoup de déchets qu'on ne sait pas recycler, donc qui polluent à la fin, qui sont jetés ou brûlés. Et il n'y a que, par exemple, le verre qui peut se recycler, mais le plastique, on ne sait pas le recycler au bout de je ne sais pas combien de fois. Mais enfin, ça reste des déchets. Quoi.
Pour connaître, et en plus, avoir un objectif commun de réduire le déchet, qu'elle ne sait pas du tout comment s'y prendre, entre le plastique, le compost qu'elle aimerait faire, mais que pas comment... comment le faire, et elle espère apprendre beaucoup de choses, et elle voit déjà que c'est en bonne voie.
Nous, quand on parle de recyclage, on parle de décyclage, parce que pour recycler, donc déjà le terme recycler, pour être plus précise, recycler un objet, ça veut dire que je vais prendre un objet, je vais le décomposer pour avoir des mini-bouts de cet objet, et c'est ces mini-bouts ensuite que je vais devoir assembler pour refabriquer un nouvel objet. Ça, c'est le recyclage. Pour le verre, c'est fabriqué à partir du sable. Si je récupère du verre recyclé pour refabriquer une bouteille en verre, si je prends que de la matière recyclée, ma bouteille sera plus fragile, elle sera plus petite. Par exemple, si je prends une bouteille pour refabriquer une autre bouteille, la deuxième bouteille sera plus petite parce que j'aurai perdu de la matière. Et elle sera plus fragile parce qu'il faut systématiquement rajouter de la matière première, ici de la silice, pour avoir les mêmes propriétés. Donc ça, c'est l'effet aval, mais il faut aussi savoir que pour pouvoir recycler des produits, il faut d'abord les collecter. Donc j'ai des poubelles, je vais aller les transporter avec un camion pour les amener dans un centre de tri qui consomme de l'énergie et de la ressource. Une fois que j'ai trié et mis tous les matériaux dans des balles séparées, je vais encore utiliser du transport pour aller vers une usine de recyclage. Une usine de recyclage qui, encore une fois, va consommer énormément d'énergie et de ressources. Pour le verre, par exemple, c'est des fours qui tournent à plus de 1000 degrés 24 heures sur 24. Et ensuite, j'aurai fabriqué mon produit. Il y a une autre raison aussi qui explique que le recyclage, ce n'est pas forcément la solution, c'est que pour recycler et pour avoir des objets fabriqués à partir de matières recyclées, on est obligé finalement d'avoir des déchets. Donc on dépend de la production de déchets pour pouvoir recycler des choses. Et du coup, nous, ce qu'on utilise comme message pour expliquer... dans quelle mesure le recyclage n'est pas la solution, c'en est une, mais ce n'est pas la première. On parle de la pyramide des 5 R, donc c'est une pyramide dans laquelle on essaie de prioriser les actions qui permettent de vraiment réduire les déchets, réduire notre consommation de ressources et les pollutions qui sont liées à nos consommations de ressources et à notre production de déchets. Le premier R, Célia.
Refuser.
Le premier R, c'est refuser. Refuser ce dont on n'a pas besoin. Par exemple, je refuse une bouteille en plastique parce que j'ai une gourde. Donc, j'ai refusé quelque chose dont je n'ai pas besoin. J'ai réussi à éviter le déchet. Le deuxième R.
Réduire.
Réduire. Donc, je réduis ma consommation quand je peux. Par exemple, au lieu d'utiliser la voiture tous les jours pour me déplacer, alors que finalement, j'aurais besoin d'utiliser la voiture que le jeudi, je réduis ma consommation d'essence, ma consommation de voiture, entre guillemets. C'est pareil pour les aliments. Des fois, il vaut mieux réduire notre consommation d'aliments et avoir des aliments de meilleure qualité. Je réduis aussi les emballages. Si il y a un objet, je ne peux pas éviter 100% de l'emballage, je vais plutôt prioriser des objets qui sont dans un seul emballage plutôt que dans trois emballages. Quand on voit par exemple les doses, les petits paquets de gâteaux dans lesquels il y a deux gâteaux dans un emballage plastique, dans une barquette plastique, dans une boîte en carton, peut-être que ça vaut le coup d'acheter un paquet avec plein de gâteaux à l'intérieur. Donc j'ai réduit les emballages. Le troisième R, réutiliser. Donc je réutilise. Je réutilise ou je répare ce que je peux réparer. C'est-à-dire, si mon t-shirt il est abîmé, ben, je vais le réparer pour pouvoir le réutiliser. Donc comme ça, j'ai évité un déchet et j'ai évité aussi de m'acheter un nouveau t-shirt. Donc là, j'ai refusé, réduit et réutilisé. Et enfin, si je ne peux pas refuser, réduire ou réutiliser, à ce moment-là, il y a la solution du recyclage. Donc le déchet, je n'ai pas pu l'éviter, mais par contre, je vais valoriser la matière que j'ai pour fabriquer de nouvelles choses. Et enfin, le dernier R, c'est rendre à la terre. En fait, c'est composter. Et si on avait mis composter au lieu de rendre à la terre, ça ne faisait pas la règle des 5 R. Alors, ça ne sonnait pas très bien. Et rendre à la terre, c'est joli. Le recyclage et rendre à la terre, ça ne s'applique pas à tout. Ma bouteille en plastique, je peux l'envoyer vers une solution de recyclage, mais je ne peux pas la rendre à la terre. Parce que si je la mets dans mon composteur, je reviens dans 8 ans, elle n'a pas bougé.
Mais c'est super intéressant. Ça fait même le lien avec ce qu'on va voir sur du coup, les conséquences un peu indirectes de sa production de déchets, où on a souvent l'impression qu'on dit... On sort sa poubelle et pouf, ça disparaît, mais il se passe des choses après, souvent.
À qui le tour? Du coup, moi j'ai discuté avec Mickaël et Marion. Du coup, c'est pour éviter d'avoir une grosse poubelle, d'éviter d'avoir une trop trop grosse poubelle. Et puis, c'était aussi sinon pour essayer de limiter son impact écologique, même si c'est une goutte d'eau, que c'est important d'essayer de le faire.
Une bouteille, ça dure combien de temps dans l'environnement avant de se dégrader, je me souviens.
C'est 500 ans, le plastique, pour se dégrader. Et ça, c'est une estimation, parce que ça ne fait pas 500 ans qu'on a inventé le plastique. Donc aujourd'hui, on est techniquement, on ne peut pas vraiment savoir. Et après, il faut quand même rappeler une chose, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le plastique, quand on dit qu'il se dégrade, en fait, il se dégrade en micro, voire nanoparticules de plastique qui, elles, ne disparaissent pas et qui sont dans les sols, dans l'eau, puis sont ensuite ingérées par les organismes. Par exemple, les micro-vers, ils vont ingérer des microplastiques. Et ensuite, l'oiseau qui va manger le ver, il va manger du microplastique. Les poissons, c'est pareil dans l'océan. Et quand nous, on consomme des poissons de l'océan, on consomme des microplastiques. Et en fait, il y en a aussi dans l'air, parce que comme c'est des particules qui sont toutes petites, elles sont légères, elles vont dans l'air, et quand on respire aussi des nanoplastiques et des microparticules autres que le plastique, mais qui sont tout aussi nocives.
Et du coup, j'ai discuté avec Lourdes et Naya, et donc, qui ont déjà participé depuis un moment à la pesée des ordures ménagères pour essayer d'estimer un peu la quantité de ce qu'on produit, et l'idée, c'est vraiment aussi dans une démarche familiale de se dire qu'il faut faire quelque chose, parce que les enfants vont grandir, le monde change, et qu'il faut aussi mettre un peu du sien pour prendre des bonnes habitudes et des bons réflexes.
Comment est-on constitué le plastique ?
Le plastique, c'est fabriqué à partir du pétrole. Le pétrole, on l'utilise pour fabriquer du carburant. Quand on va transformer le pétrole en carburant, en fait, on va séparer la matière pour avoir le carburant d'un côté. Je la fais très simple, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On va séparer la matière, on va avoir le carburant d'un côté, et derrière, on va avoir un résidu, et c'est à partir de ce résidu qu'on va fabriquer du plastique. Donc techniquement, tant qu'on est encore dépendant du pétrole pour fabriquer du carburant et de l'énergie, on va produire du plastique. Après, le plastique, c'est pas que problématique. Ça a permis plein de choses. Là, par exemple, je vois un fauteuil roulant. Sans le plastique, on n'a pas un fauteuil roulant comme ça. Sans plastique, on n'a pas le micro dans lequel je suis en train de parler. On n'a pas le casque avec lequel vous êtes en train d'écouter. Donc, ça a quand même des fonctions hyper intéressantes. Par contre, on se rend compte, ça a des fonctions hyper intéressantes. Ça met 500 ans avant de se dégrader et de nuire à la biodiversité et à la santé dans l'environnement. Et nous, on fait quoi avec ça? On fabrique des bouteilles en plastique qu'on utilise pendant 2 heures. Donc, il y a un problème avec le plastique, mais il y a surtout un problème avec l'usage du plastique. On peut repenser l'usage du plastique pour avoir des choses qu'on va garder longtemps, qui durent longtemps parce que c'est très résistant, et qui est utilisé à bon escient. Une carrosserie de voiture, elle est aussi plus légère, donc on consomme moins de carburant quand on va déplacer le même véhicule.
Certains d'entre vous ont déjà fait des fresques type fresque du climat, par exemple. Ouais. Du coup, il n'y a que Sylvie qui en a fait.
Non,
aussi. Ouais. Du coup, est-ce que, ben, je ne sais pas, Sylvie, tu peux peut-être, si tu peux nous expliquer un petit peu le principe d'une fresque, parce qu'elles sont toutes un peu construites de la même manière.
Non, moi, j'ai fait une fresque du climat.
Ouais.
Et donc, l'idée, c'était voilà, qu'il y avait des cartes qui permettaient d'expliquer les liens de cause à effet entre le réchauffement climatique et les actions de l'homme.
Exactement. Le principe de ces fresques, en fait, c'est de construire en fait une vue globale en raisonnant sur un principe de cause à effet, où on peut, pour les déchets aussi, imaginer un principe de flux de matière. Voilà. Donc j'ai commencé à poser quelques cartes pour que vous puissiez avoir quelques repères, parce qu'ensuite c'est vous qui allez venir positionner les cartes au fur et à mesure, et en plus c'est pas dans l'ordre forcément chronologique attendu, c'est-à-dire que ça va être à vous de la reconstruire. Donc j'ai mis cette carte-là, qui est la consommation des ménages d'un côté, d'accord ? Donc ça va être un peu le début de l'histoire. Et ensuite on va construire la fresque pour aller jusque la partie où on va commencer à parler des impacts, par exemple en termes de pollution, et je vous ai mis les deux premières cartes, pollution de l'eau, pollution des sols. Alors cette fresque, elle a été en fait créée par l'association Green Donut, elle existe depuis quelques années maintenant. Les données, en fait, elle a été construite avec des données qui viennent principalement, pas que, mais principalement de l'Agence de l'Environnement, de l'ADEME, de l'INSEE, et aussi beaucoup de Zero Waste, notre association, l'association dont je fais partie, Zero Waste France.
Il y a beaucoup de plastique qu'on consomme, nous, les citoyens et les citoyennes, mais ça peut être aussi modifié, entre guillemets, par l'action des pouvoirs publics. Quand il y a des réglementations pour dire on va arrêter de fabriquer des en plastique à usage unique, c'est bien la loi, le gouvernement qui dit ça, on arrête. Et donc les industriels sont contraints d'arrêter. Et donc les consommateurs et les consommatrices sont plus tentés d'acheter ça, soit parce que c'est joli, soit parce que c'est drôle, soit parce que c'est pas cher. À partir du moment où c'est plus sur le marché, on évite la pollution. Mais ça va un petit peu dans les trois sens. On appelle le triangle de l'action ou de l'inaction, dans lequel il y a d'un côté les pouvoirs publics, d'un côté les industriels et d'un côté les consommateurs et les consommatrices. C'est l'action de ces trois entités qui fait qu'il peut y avoir un changement. Quand on parle de démarche zéro déchet, c'est pas seulement une action individuelle, c'est une action collective, parce que à l'échelle de l'individu, il faut évidemment mettre des choses en place, mais sans l'action collective, il n'y a rien qui peut se passer. Donc c'est une démarche collective, la démarche de réduction des déchets et des gaspillages.
Produits alimentaires, c'est ce que l'on va pouvoir consommer.
Oui.
Tes produits alimentaires, comme
tu peux les composter.
Certes, mais ce que tu vas consommer, ensuite tu vas produire des déchets, donc là il doit y avoir des déchets quelque part. Et les déchets, qu'est-ce que tu en fais ? Soit tu les balances à l'incinérateur, soit tu les enfouis, soit tu les compostes. Et le résultat, c'est que tu fais des émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique.
Oui, ça, c'est le constatant ultime.
Et tout ça, ça peut être autant dans la production que dans la, destruction.
Dans la destruction, oui, voilà. Ça peut être là.
L'association Zero Waste Toulouse fait partie d'un réseau national qui est coordonné par l'association Zero Waste France, qui travaille avec les pouvoirs publics à l'échelle nationale, donc l'Assemblée nationale, pour encourager de meilleures politiques publiques en matière de prévention et de gestion des déchets. Et donc anime un réseau d'environ 100 groupes locaux en France, donc, qui ont des activités similaires aux nôtres, c'est-à-dire faire de la sensibilisation et du plaidoyer autour de la prévention et de la gestion des déchets. Alors, pour nous contacter, il y a plein de manières différentes. Vous nous trouvez sur les réseaux sociaux en tapant Zero Waste Toulouse. On est sur Instagram, Facebook, LinkedIn. On a aussi un site internet, c'est zerowastetoulouse.org, tout attaché. Et après, pour nous contacter à nous, il y a des adresses e-mail que vous pouvez retrouver dans la page contact du site internet.
Allez, je vous propose qu'on commence. Ne vous posez pas trop de questions dans le détail pour le moment. On verra ça au moment où on pose les cartes éventuellement. Tout le monde est prêt à peu près ? Pour Maria, désolé, ça va aller. C'est pas grave, on les fera. C'est collaboratif. Je disais, on fera tous ensemble. Allez, on y va. Alors, du coup, ce que je vous propose peut-être, si ça ne vous embête pas, c'est de garder vos cartes dans les mains, juste pour que ce soit un peu plus clair au fur et à mesure qu'on va construire ça. Les cartes qu'on met sur la table, c'est celles qu'on aura posées. On va démarrer avec le lot donc 1B. Donc c'était. En fait, je crois que je les ai distribués plus ou moins dans l'ordre, comme ça, ça va être plus simple. Alors, du coup, ces cartes. Qu'est-ce qu'on a dans ces cartes, ces premières cartes?
On a des produits alimentaires.
Ouais.
Et du coup, je présente par ordre, comment on a fait?
Alors, du coup, là, par exemple, j'avais déjà positionné en fait les produits à usage unique. Tout le monde sait ce que c'est un produit à usage unique? Oui. Ouais, c'est quelque chose, à peine on l'a utilisé,
pas le jeter.
C'est un coton-tige, par exemple. On l'utilise, on le jette. Du coup, dans le groupe, là, vous avez d'autres types de produits. Donc,
oui.
Je mettrai où, spontanément, on va dire. On va se déplacer comme ça.
Comme ça, ça commence comme ça. Bah, voilà. C'est avant, en fait, de...
Mais non, c'est dans les produits que les ménages vont pouvoir acheter, comme un produit à usage unique, sauf que là, c'est un produit alimentaire.
Voilà. Bah oui, en fait, qu'est-ce que les ménages consomment? Ils consomment, par exemple, des produits à usage unique et aussi des produits alimentaires. Après, on les met dans, dans le sens que vous voulez. L'idée, c'est de se déplacer. Ouais. Donc, on consomme des produits alimentaires.
Ok. Ces produits son poste, incinération. En fait, avec ces produits, on va pouvoir...
Ça bouillonne.
À Soupetard. Un projet porté par l'Agence Intercalaire et Résonance Sonore.
Réalisé par Café & Co.
Philae.
Les habitants-habitantes du quartier toulousain de Soupetard.
Accompagnés de Flora Bellouin,
Mathias Guilbeault
et Agnès Gontier. En partenariat avec Lomé et son dispositif À Mi-Chemin, avec le soutien de la DRAC Occitanie, la mairie de Toulouse et ICF Habitat.
Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.